Les conférences du Collège de France.
Alors bonjour à toutes et à tous. Alors vous le savez, l'Égypte des premiers siècles de l'islam a longtemps été un parent pauvre des études papyrologiques. C'est Adolphe Grumman, né en 1887 et mort en 1977, a été un des premiers à avoir montré le potentiel que représentaient les papyrus pour l'étude du premier islam, à une époque où ce sont les papyrus grecs, à moindre égard les coptes, qui attiraient l'attention des savants. Bien, il a fallu attendre bien plus tard pour que la papyrologie arabe devienne un champ d'études organisé, dynamique et attractif. Petra Seipenstein est une de celles qui a contribué à l'institutionnalisation de cette discipline et au développement de l'intérêt pour l'Égypte omeyyade du côté arabe. Alors, la famille Seipenstein, je devrais dire, est elle-même emblématique de l'évolution des études papyrologiques avec l'émergence d'autres papyrologies que celles qui, pendant longtemps, ont eu l'exclusivité. Je veux parler de la papyrologie grecque. Son père, Peter Ioannes, a été un des plus grands papyrologues, détenant le record de publication de papyrus avec plus de 3800 ou 3300 éditions. Sa fille, Petra, a contribué à mettre fin au primat de la papyrologie grecque en s'aventurant dans le maquis encore trop mal connu des papyrus arabes qui ont constitué pendant longtemps les fonds les plus délaissés des collections papyrologiques. Alors, un de ses premiers ou grands ouvrages, Shaping a Muslim State, The World of a Mid-8th Century Egyptian Official, publié à Oxford en 2013, montre bien quelle est la méthode de Petra. C'est un livre d'historienne proposant une étude des processus politiques, sociaux et économiques qui ont permis à l'Égypte de passer du statut de province de l'Empire byzantin à celui d'un État arabo-musulman. Mais cette synthèse historique s'appuie sur un corpus de lettres sur papyrus datant de 730 à 750 qu'elle édite pour la première fois. Tout en ne dédaignant pas les discussions théoriques relatives à la gouvernance, l'historiographie, la sociolinguistique et la critique des sources, elle ne perd jamais de vue la réalité concrète de son terrain d'étude que dessine le corpus des textes qu'elle édite et qu'elle étudie. Ainsi, la micro-histoire vient façonner avec bonheur une réflexion plus large qui lui permet de mettre en lumière les mécanismes présidant à la formation d'un État dans le monde islamique. Son activité d'éditrice de textes est donc mise au service d'un travail de synthèse historique, comme le montrent ses travaux postérieurs, où la publication de papyrus inédits sert toujours une problématique d'ensemble. Ainsi, Petra est-elle sur le point de publier, peut-être cette année, un volume intitulé Care for the Poor and the Weak, qui est une édition de papyrus inédit de la Bibliothèque nationale de Vienne, qui ont trait à la façon dont la société a pris en charge les individus en situation de précarité. Et elle travaille justement actuellement à un autre volume sur la justice, dont les présentes conférences vous donneront un aperçu en avant-première. Petra n'est pas seulement une chercheuse hors pair, ce qui suffirait à justifier sa présence ici même parmi nous. C'est aussi une remarquable animatrice de la recherche. Elle a développé avec succès maints projets, dont trois Marie Curie, deux ERC, peut-être que j'en oublie, The Formation of Islam, The View from Below, de 2009 à 2015, et Embedding Conquest, Naturalizing Muslim Rule in the Early Islamic Empire, qui s'est terminé en 2022. Et elle vient, infatigable, elle vient de se lancer à nouveau dans un vaste projet financé par le Conseil national, enfin le Conseil de la recherche néerlandais, intitulé Land, Space, Power, Landscapes of the Early Caliphate, qui a commencé en 2025 et qui se terminera en 2030. Ces programmes, non seulement créé une dynamique de recherche, mais grâce au recrutement de doctorants, de post-doctorants, contribue à l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes chercheurs, dans le domaine des études arabes. Vous savez que la papyrologie est une discipline bien organisée qui s'appuie sur des instruments de travail mettant notamment à profit des technologies modernes. Eh bien, Petra a joué aussi un rôle important dans la mise en place de certains instrumenta dans le domaine de la papyrologie arabe, comme la Checklist of Arabic Documents, et ainsi que l'Arabic Papyrology Database, dirigée par Andreas Kaploni, à laquelle elle a participé, et qui a permis à la papyrologie arabe de rattraper le retard qu'elle avait par rapport, on va dire, à son aîné, la papyrologie grecque. Je suis donc heureux de céder la parole à quelqu'un qui a tant apporté à son champ de recherche, un champ si proche de celui que je cultive dans le cadre de ma chaire, et qui finalement ne s'en différencie que par la langue. Le domaine dont elle va traiter, la justice, a laissé en effet énormément de, pour l'époque omeyyade, une énorme documentation en grec qui pose le problème de l'évolution des institutions judiciaires après la conquête arabo-musulmane en 642. Donc je suis sûr que ces quatre conférences que va nous donner Petra répondront à des questions que nous autres papyrologues, hellénistes ou coptisans, nous posons déjà depuis des années sans avoir toujours les réponses. Petra, c'est à toi.
Après ces mots, qu'est-ce que je peux dire? Merci Jean-Luc. Et je voudrais bien sûr commencer par remercier Jean-Luc Fonet et ses collègues de Collège de France de m'avoir donné l'occasion ici de présenter mes réflexions, comme tu as dit, sur un sujet que je mûris depuis longtemps. Avec nombre de personnes présente aujourd'hui, j'ai en réalité discuté cette thématique au cours des dernières années, en fait. Une grande partie du mérite revient à Jean-Luc lui-même, qui, il y a bien des années, lorsque j'essayais de lui expliquer pourquoi je considérais que les lettres de pétition qui constituent la base principale de mon corpus formaient un ensemble cohérent et intéressant pour comprendre comment les individus cherchaient réparation face à des injustices dans l'empire musulman du début, il m'a répondu « Mais ce ne sont que des lettres ordinaires ». Ce que Jean-Luc voulait dire, et j'espère que tu me pardonnerais de faire de toi un homme de paille, est-ce qu'on dit strawman comme ça, cet après-midi, c'est que les lettres sur papyrus dans lesquelles l'expéditeur sollicite l'intervention du destinataire pour résoudre un problème, mais qui ne relève pas de la procédure de pétition romaine bien connue, n'étaient que des échanges de services ordinaires, sans lien avec l'administration de la justice. Dans ce cycle de conférences, je souhaite montrer que les lettres de pétition en arabe sur papyrus ne sont pas de simples correspondantes informelles, mais qu'elle constitue une partie intégrante d'un écosystème plus grand, plus large, de recours et de réparation dans l'Égypte islamique des premiers siècles et du Moyen-Âge. Elle représente un élément clé d'un système multifacette par lequel les individus faisaient face aux injustices et géraient les crises. Qu'est-ce que sont donc les lettres de pétition ? Des catastrophes naturelles telles que mauvaises récoltes causées par des tempêtes, des animaux errants, des sécheresses ou des crues excessives du Nil, aux malheurs provoqués par les hommes, blessures, disparitions, conflits, guerres et rivalités, la vie quotidienne dans l'Égypte médiévale était d'apporter un éclairage précieux la vie quotidienne dans l'Égypte médiévale était pleine de menaces et de catastrophes potentielles. Ces situations entraînaient des problèmes concrets. Incapacité de payer biens et services, impôts ou amendes, de rembourser des dettes, de subvenir aux besoins de dépendants ou encore absence de soutien en raison de migration, voyage, emprisonnement, divorce, décès ou maladie. Face à ces épreuves, les individus se tournaient vers autrui pour solliciter de l'aide. Selon la nature du problème et la solution recherchée, les requêtes pouvaient prendre la forme de demandes de soutien matériel, de réduction ou de report de paiement, ou à l'inverse, d'interventions visant à contraindre un tiers à s'acquitter de ses obligations, qu'il s'agisse de verser une somme, de livrer des biens ou de fournir des services promis ou requis. Elle pouvait également consister en une aide pour trouver un emploi ou un logement, retrouver un conjoint, un membre de la famille, un serviteur ou un animal en fuite. Obtenir une réconciliation était aussi une des choses qu'on a cherchées avec les lettres de pétition. Ou imposer une mesure disciplinaire, une sanction ou une forme de réparation, ou encore accéder à des services ou à des privilèges. Certaines lettres étaient adressées directement à la personne dont l'aide était sollicitée. Toutefois, il n'était pas rare qu'une intermédiaire soit mobilisée afin d'intercéder auprès d'un bienfaiteur potentiel. Des dizaines de lettres de ce type ont été conservées, rédigées en arabe sur papyrus et datées entre le 7e et le 10e siècle de notre ère, principalement de l'Égypte, en Égypte. Cette première conférence est consacrée à la définition des caractéristiques propres aux lettres de pétition. Les deux conférences suivantes examinent les processus qui président à leur élaboration. La deuxième porte sur les aspects pratiques et logistiques de l'acheminement d'une demande d'aide vers le destinataire approprié, tandis que la troisième analyse le cadre moral mobilisé dans ces lettres et ses liens avec d'autres pratiques textuelles dans le monde islamique. Dans la conférence conclusive, je montrerai que l'étude de ce corpus permet non seulement d'éclairer les interactions entre ces différents mécanismes de recours, mais aussi d'apporter un éclairage précieux sur les normes sociales et les réseaux qui sous-tendaient la cohésion de la société égyptienne au Moyen Âge. Et ce point est essentiel pour répondre à une question qui a constitué l'un des axes majeurs de ma réflexion tout au long de ma carrière. Comment les Arabes ont-ils réussi à passer d'une société de conquête à un empire? À la suite des grandes conquêtes du 7e et 8e siècle de notre ère, qui les ont placés à la tête d'un territoire immense s'étendant de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'au sous-continent indien à l'est. Comment ces conquérants militaires, pourtant victorieux, ont-ils été en mesure de gouverner efficacement un empire composé de populations d'origine ethnique, linguistique, religieuses et sociales très diverses, dans des régions qui n'avaient jamais auparavant constitué une unité politique. Un empire, et c'est là le point central, qui ne s'est pas disloqué immédiatement après la conquête et dans lequel, d'une manière générale, les groupes et les individus, malgré la diversité de leur appartenance, de leurs activités et de leurs intérêts, n'ont pas choisi de s'en retirer. Autrement dit, en dépit des nombreuses plaintes, révoltes, protestations et propositions de formes alternatives de gouvernement et de souveraineté abondamment attestées dans les sources, il semble qu'il existait toujours une issue à l'insatisfaction. Une possibilité de résoudre un problème et, ce faisant, de demeurer partie prenante du système. Il existait par ailleurs une alternative au règlement des conflits ou à la restitution des droits par des actions unilatérales ou violentes menées individuellement. C'est précisément cette possibilité de négocier une solution à un désaccord ou à une difficulté, ou du moins la perception qu'une telle possibilité existait, ainsi que l'existence de cadres permettant de la mettre en œuvre, qui, selon moi, explique le succès de l'Empire islamique des premiers siècles en termes de maintien d'une cohésion sociopolitique, condition essentielle des profondes transformations qu'a connues le Moyen-Orient. Avant d'aborder les lettres de pétition sur papyrus afin d'examiner concrètement le fonctionnement de ce système permettant de négocier les conflits et de résoudre les problèmes, je souhaiterais citer un passage d'un roman néerlandais traduit en plusieurs langues, dont le français, Grand Hôtel Europa, de Ilya Leonard Pfeiffer. Ce détour me permettra de mettre en lumière ce que je considère comme l'élément social essentiel ayant facilité la résolution de problèmes. Un élément qui, comme je l'ai suggéré, me paraît fondamental pour comprendre le fonctionnement réussi de l'Empire islamique des premiers siècles. Examinons maintenant cette citation. Dès les premières pages du roman, Pfeiffer propose une forme de relativisme culturel historiquement contextualisé pour expliquer l'organisation de la société italienne au siècle XXI, donc notre ère. Clio, historienne de l'art italien, est l'un des personnages principaux, explique pourquoi, malgré un curriculum vitae remarquable, elle n'a jamais obtenu de poste significatif dans un musée ou à l'université. Selon elle, cela tient au fait qu'en Italie, dans la construction d'une carrière, il importe moins de savoir ce dont on est capable, de savoir ce dont on est capable compte moins que les relations qu'on a. Clio poursuit, et je cite. Je vais résumer très brièvement. Le fait est que des siècles de l'expérience de domination étrangère ont conduit les Italiens à développer une profonde méfiance à l'égard de l'État. Il est devenu partie intégrante de l'ADN italien de n'entendre que peu de bien de l'État et de considérer les autorités centrales davantage comme un ennemi que comme une alliée. Les Italiens ont appris de leur histoire qu'ils doivent se débrouiller seuls. Ils doivent se défendre eux-mêmes, car l'État ne le fera certainement pas. En conséquence, ils se sont organisés en groupes étroitement soudés, fondés sur les liens de parenté et d'amitié qui assurent la protection que l'État ne garantit pas, et une protection contre l'État lui-même. C'est l'origine de diverses formes de népotisme et de clientélisme. C'est aussi l'origine de la mafia. Fin de la citation. Par son analyse, qu'elle corresponde ou non à une description exacte de l'Italie contemporaine, Clio avance deux présupposés concernant les relations de patronage qui sont particulièrement pertinents pour notre propos. Premièrement, elle soutient que les réseaux de dépendance réciproques sont fondamentalement injustes. S'ils peuvent bénéficier aux membres d'une famille, d'un clan ou d'un groupe étroitement lié, ils ne tiennent pas compte du mérite individuel ni de ses besoins. Dans le système de patronage, les droits ne sont pas répartis de manière égale, mais attribués en fonction de liens personnels et d'échanges de faveurs. En outre, les personnes en quête d'assistance disposent d'une marge d'action limitée. En dehors de la mobilisation de leur appartenance, de groupe et de leur réseau personnel, elles n'ont guère de contrôle sur les solutions qui leur sont proposées. En somme, ceux qui sont dans le besoin sont contraints d'accepter les conditions qui leur sont imposées, avec peu de capacité à les infléchir. Deuxièmement, elle exprime une conception répandue des rapports entre structures étatiques et réseaux de patronage, qu'elle présente comme des vases communicants. Davantage d'États impliquerait moins de patronage et inversement. Dans cette perspective, un État faible ou absent, c'est-à-dire un système de gouvernement dont les institutions sont soit insuffisamment développées, soit incapables de fournir les services attendus par ses sujets, conduit nécessairement à renforcer l'importance des relations d'interdépendance réciproque. Ne pouvant s'appuyer sur des institutions étatiques, transparents et accessibles à tous, les individus seraient contraints de se replier sur leur propre communauté, où ils dépendent alors de mécanismes de protection et de soutien mutuel. Je me suis appuyée sur les propos de Clio, non parce qu'il rendrait fidèlement compte de la situation de l'Égypte islamique des premiers siècles et médiévales, mais parce qu'il exprime de manière particulièrement nette un certain nombre de présupposés qui ont longtemps obscurci, ou devrais-je dire biaisé, notre compréhension, voire notre appréciation, des réseaux de patronage tels qu'ils fonctionnent dans le monde islamique médiéval. Je souhaiterais au contraire défendre l'idée que les relations d'interdépendance sociale, ainsi que les droits et obligations entendus qui en découlaient, constituaient le véritable ciment de la société. C'est à travers des échanges réciproques que ces relations s'exprimaient, se maintenaient et se renforçaient. Cette conférence vise précisément à montrer que cette dynamique se manifeste de manière particulièrement claire dans les lettres de pétition en arabe sur papyrus. Contrairement à la caractérisation proposée par Clio pour l'Italie, le cas de l'Égypte islamique des premiers siècles ne doit pas être interprété comme le produit ou l'expression d'un État défaillant, c'est-à-dire d'une structure de gouvernement encore en formation ou n'ayant jamais développé un cadre institutionnel pleinement structuré et fondé sur le droit tel qu'on l'associe souvent, reconnaissons-le, avec société occidentale. De telles hypothèses sous-tendent en réalité l'image persistante et largement négative d'une société orientale, prétendue dominée par le népotisme, dans laquelle l'organisation sociale et politique reposerait avant tout sur les relations personnelles et l'échange des faveurs. Les habitants de l'Égypte se débrouillent par eux-mêmes, renvoyait, selon moi, à un système d'interaction bien plus complexe, dans lequel l'État et la société demeurent profondément imbriqués, articulés autour d'un système partagé de valeurs sociopolitiques fondées sur des droits moraux et une prétention à la justice. Une telle interprétation est étayée par les travaux de Caroline Humphreys, dont l'adoption d'une perspective de pluralisme juridique appliquée au droit roman tardif a montré que le système juridique englobe toujours une pluralité de sphères légales, ayant de formes locales, circonstancielles et informelles de régulation et de pratique, à des systèmes centralisés et formalisés visant à encadrer le comportement humain de manière descendante. Elle prend également en compte les observations formulées par Tobias Schoenchen dans sa récente thèse de l'Université de Chicago, selon lesquelles les procédures d'arbitrage dans l'Égypte romaine tardive n'étaient nullement informelles, mais constituaient, au contraire, des procédures hautement structurées, donnant lieu à une documentation réglementée. De manière similaire, Mathieu Tillier a étudié les règlements extrajudiciaires dans le cadre du droit islamique. Donc pas dehors, mais ça fait partie du droit islamique. Dans l'Égypte islamique des premiers siècles, les plaignants, les gens qui avaient des problèmes, soumettaient aussi leurs doléances au gouverneur provincial et à ses représentantes. Ces requêtes pouvaient faire l'objet d'une enquête, être déléguées à des agences subalternes, puis être tranchées par voie de décret administratif. Et cela dès la période omayyade, comme l'a montré Mathieu Tillier, et comme lui-même et Naïm Fantihem l'ont établi avec encore plus de netteté pour la période abbasside. La question de savoir si cette pratique doit être interprétée comme une continuité de l'institution romaine de la pétition, avec ses procédures formelles de soumission écrite et orale, si bien étudiées pour les périodes plus tardives par Jean-Luc Fournet, reste ouverte. Il est clair que ce que montrent les papyrus de la période islamique ne correspond pas à la procédure de pétition romaine formalisée et pleinement en vigueur. Néanmoins, comme l'ont démontré de manière convaincante Schoenchen et Tillier, il est aussi clair que, dès une période précoce, les agents de l'État arabe ont joué un rôle dans l'administration de la justice, en recevant et en examinant des plaintes, y compris dans des affaires contentieuses, et par l'aide d'une documentation écrite impressionnante. Affirmer que les lettres de pétition, la procédure de pétition institutionnelle et même un appareil judiciaire islamique en cours de formation constituaient un continuum de pratiques de justice ne signifie pas pour autant qu'il n'existait ni hiérarchie, ni distinction entre ces différents domaines. Ceux-ci se différenciaient tant par la nature des décisions produites que par le degré de contrainte dont elles disposaient, ainsi que par les types d'affaires traitées dans l'un ou l'autre cadre. Le lien entre ces différentes pratiques se situe à un niveau plus profond. Il réside dans le fait que toute personne sollicitant une aide pour remédier à une justice, qu'il s'agisse de porter un litige ou un autre type de problème devant un tribunal de droit islamique, d'adresser une pétition au gouverneur ou encore de recourir à une lettre de pétition adressée à toute personne jugée capable de résoudre la situation, le faisait dans le but de voir reconnaître son droit légitime, « haq » en arabe. Dans les tribunaux de droit islamique, les conditions permettant d'établir ce « haq » ont progressivement été définies à travers des procédures juridiques fondées sur l'administration de la preuve et le témoignage, tandis que les pétitionnaires, donc dans les lettres de pétition, faisait appel au droit moral, qui s'appelle aussi haq, des personnes, au droit moral des personnes dans le besoin d'obtenir justice et assistance. C'est précisément ce droit moral à être aidé dans la résolution de cette difficulté qui fait intervenir les réseaux d'interdépendance sociale ou relations de patronage. En tant que principe de cohésion structurant la société de l'Égypte islamique des premiers siècles et médiévales, et plus largement, je voudrais dire, celle de l'Empire islamique. En effet, c'est à travers des relations réciproques impliquant des droits et des obligations mutuelles que les individus pouvaient obtenir assistance et résoudre leurs problèmes, Et c'était exactement le sujet du deuxième ERC qui m'a donné ces idées et ces preuves, en fait. Le travail de team de cette ERC. Ces réseaux constituaient le fondement des lettres de pétition. Autant d'appels à l'aide adressés à des figures d'autorité, mais aussi à des amis, des membres de la famille ou des agents administratifs accessibles, en dehors des institutions organisées par le pouvoir et souvent selon des modalités apparemment ad hoc. C'est un point sur lequel je reviendrai. La réciprocité constituait le fondement aux lettres de pétition qui circulent hors, mais aussi, et ça est important de noter, aussi les pétitions et les dirigeants de l'administration et de l'Empire elle-même. Comme l'a montré de manière convaincante Marina Roustoff, la pétition fatimide, donc du période 10e en Égypte, constituait un instrument administratif à travers lequel les souverains exerçaient leurs fonctions de grand de la justice et de protecteur de leurs sujets, assurant ainsi la légitimité de leur autorité. La justice souveraine fatimide s'inscrivait dans une longue tradition, mobilisant l'image du souverain juste, un concept profondément ancré dans le Proche-Orient ancien, et plus particulièrement dans la sphère perse. Cette conception est formulée de manière particulièrement éclairante dans une citation qu'utilise Roustoff, tirée de l'historien et géographe irakien du Xe siècle, Al-Masoudi, dont le recours aux sources et aux idées sassanides est bien établi. Dans son Histoire universelle, Al-Muruj al-Dahab wa al-Ma'adn al-Jawhar, les prairies d'or et les mines de pierres précieuses, achevées vers 943 de notre ère, Al-Masoudi rapporte les propos du conseiller du Shah sassanide Bahram le IIe, qui régna dans le IIIe siècle de notre ère. Donc l'histoire prend place dans la période sassanide, mais c'est écrit dans la période islamique. La force d'un royaume repose sur la loi, l'obéissance à Dieu et l'exécution de sa volonté. La loi ne peut être maintenue que par le roi, et le roi doit sa puissance aux soldats. Or, ce qui soutient les soldats, ce sont les revenus, lesquels ne peuvent provenir que de la prospérité de l'agriculture. Et la prospérité ne peut exister sans justice. Donc ça, c'est le fameux cercle de justice, non? Autrement dit, un royaume ne peut prospérer que si le souverain prélève des impôts, à cette époque essentiellement sur la production agricole, afin de rémunérer les soldats qui assurent son pouvoir et lui permettent de faire respecter la loi. Mais la capacité même de lever l'impôt dépend du maintien de la justice, qui garantit la productivité des terres dont sont issus ses revenus. Le souverain et ses sujets se trouvent ainsi pris dans une relation d'interdépendance réciproque. Dans cette conception idéale, l'exercice de la justice impliquait avant tout la protection et la défense des faibles et des victimes contre leurs oppresseurs, lesquels devaient être punis à la mesure de leur transgression. Toutefois, la justice ne se limitait pas à cette dimension répressive. Elle incluait également la générosité, manifesté par l'apport d'une aide matérielle ou par l'allègement de charges fiscales pesant sur ceux qui étaient affectés par des sécheresses, des inondations ou qui, d'une manière générale, se trouvaient dans une situation de besoin. Donc, au cours sassanide, des gens avec des problèmes comme ça viennent à le souverain. Et même les requêtes émanant de personnes dont les difficultés résultaient de leur propre comportement, tels les prisonniers, les condamnés ou leurs proches, étaient censés être accueillis avec magnanimité et miséricorde. Se pose alors la question suivante. De quelle manière les plus vulnérables pouvaient-ils faire connaître leurs griffes au souverain? Ils le faisaient en soumettant des plaintes et des demandes d'assistance ou de réparation. Autrement dit, ils présentent des pétitions. À titre d'illustration, j'ai choisi cette image tirée du manuscrit moghol illustré du Shahnameh de Firdausi, récit des rois persans pré-islamiques représentant un souverain recevant des pétitions à sa cour. Donc c'est la même chose, hein? C'est un texte de période islamique mais qui représente le période, la situation dans l'empire sassanide. Mais cette version des pétitions, on le connaît aussi des textes plus tardifs que ce texte du 10e siècle ou 11e, le Firdausi. Et ça, c'est le point, non? Donc, on a cette image dans la période sassanide. C'est décrit dans une période plus tardive. Marina le voit pour l'empire fatimide. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que cette image ou cette idée, cet idéal, est le fondement pour toutes les demandes, lettres de pétition soumises au cours à des souverains, mais aussi à des amis des autres. En définitive, le souverain et ses sujets étaient engagés dans une relation d'interdépendance réciproque, au sein de laquelle une relation institutionnalisée facilitait l'échange de faveurs, d'assistance et de ressources. Bien que cette relation fût, dans son principe, d'ordre abstrait, les procédures codifiées de la pétition pour la période sassanide et plus tardif pour la période islamique, reproduisait néanmoins les contours d'un lien personnel de patronage entre le souverain et le pétitionnaire. L'idée selon laquelle les requérants devaient bénéficier d'un accès direct et sans entrave au souverain. Il y avait un punishment très sévère quand on essayait de obstruire les plaignants de présenter leur pétition au souverain, et d'ailleurs déjà attribué au roi sassanide. De même, on apporte que les premiers souverains musulmans avaient aménagé cet accès. Notamment, il y a des anecdotes qu'ils ont mises, par exemple, dans le cours abbasside à Bagdad, des escaliers spécifiques menant directement à la salle d'audience pour les gens avec des pétitions. Donc, eux peuvent directement aller à la salle d'audience. C'est l'accès personnel. Je vous montre ici un exemple issu d'une période bien postérieure et d'un autre contexte, simplement parce que je m'y trouvais le week-end dernier. Il s'agit du second cours du palais de Topkapi à Istanbul, résidence privée des sultans ottomans entre 1465 et 1856, où les pétitionnaires étaient autorisés à présenter leurs requêtes 3 jours par semaine en pénétrant dans cet espace autrement fermé au public ordinaire, et donc dans le palais privé des sultans. Le souverain répondait donc aux demandes de réparation de ses sujets face aux injustices perçues et aux malheurs subis, tandis que ces derniers assuraient en retour un flux régulier de ressources sous la forme de l'impôt. Les sujets invoquaient l'obligation du souverain de garantir la justice, tandis que celui-ci fondait son droit à percevoir l'impôt sur sa capacité à maintenir un ordre juste et prospère. De manière analogue, les individus occupant de positions de pouvoir dans la société étaient sollicités pour apporter leur aide en vertu des droits et des obligations découlant des relations d'interdépendance qui les lient aux autres. Et ça sera donc plutôt le sujet du troisième conférence. Hein, comment cette idée de la relation entre le roi et ses sujets a un miroir, une image miroir dans les pétitions, les lettres de pétition qui sont échangées à un autre échange. Plus ces échanges de services et de ressources se répètent, plus la relation réciproque se renforçait, nourrissant d'attente de bénéfices et de privilèges à venir. C'est ainsi, par le biais d'offres, de retraite ou de mobilisation d'échanges futurs, que ceux qui demandaient des faveurs et ceux qui les accordent pouvaient aussi manipuler leurs accès aux services. Voyons à présent comment ce système se donne à voir dans les papyrus. J'ai volontairement choisi des exemples datant de la fin du 8e ou du 9e siècle de notre ère, c'est-à-dire d'une période où les tribunaux de droit islamique et l'institution de pétition abbasside étaient déjà bien établis. Nous commencerons par deux affaires contentieuses portées devant des représentants de l'administration. Et je ne donne pas le texte complet, mais je raconte le contenu. Les deux papyrus sont aujourd'hui conservés dans la collection de Vienne. Le premier contient ici, en réalité, deux versions, ou brouillons, d'une même pétition. Deux rédactions légèrement différentes d'un même texte figurent au recto et au verso. L'affaire concerne une veuve, décrite comme « demia », c'est-à-dire une non-musulmane, juif ou chrétien, et qualifiée de faible, « daïfa ». Elle adresse sa pétition, « kessati », à un commandant militaire, Qa'ed. La veuve explique qu'elle a été dépouillée des domaines ruraux que son épouse musulmane lui avait laissés par sa belle famille, laquelle l'a réduit à errer dans les champs comme du bétail, c'est-à-dire à vivre sans abri. Elle suggère que le Qa'ed écrive à un responsable à El Hashmounein, où elle réside, vraisemblablement, et où se trouvent les biens de son défunt mari, afin que lui soit rendu justice, c'est-à-dire qu'elle puisse accéder à ce qu'elle considère comme son héritage légitime. La seconde lettre, publiée par Adolf Grohmann, émane d'un homme qui se présente comme un orphelin pauvre et faible, et qui sollicite l'amir, c'est-à-dire le gouverneur, pour régler une autre affaire d'héritage. Au décès de son père, un certain Elias lui devait 4 dinars, son père, ça veut dire. Or, cette somme n'a jamais été versée au demandeur, apparemment unique héritier des biens de son père. « Je n'ai personne sinon Dieu et vous », ajoute l'orphelin, l'écriteur de cette lettre, en demandant à l'amir de faire comparaître celui qui a pris les 4 dinars et de l'interroger jusqu'à ce que vous connaissiez la vérité de ce sujet. Mais ils disent aussi, moi je ne connais, je suis un bon musulman, il utilise le shahada dans la lettre et il fait répéter plusieurs fois qu'est-ce que c'est le problème et pourquoi l'amir doit l'aider. Donc c'est une persuasion, hein? C'est une lettre de persuasion. À la même époque, un autre litige, en fait un peu plus avant, successoral, vu porter non pas devant une autorité administrative, mais devant un qadi, c'est-à-dire un juge de droit islamique. Je n'ai pas une image, c'était publié par Dim. Un groupe indéterminés de sœurs avait hérité une sixième d'une maison après le décès de leur mère. Cependant, l'une d'entre elles refusait de reconnaître le droit des autres à cette part et continuait à percevoir seule les loyers du bien. La sœur qui écrit au nom des parties lésées conclut sa lettre en demandant au qadi de lui restituer son haq, c'est-à-dire son droit légitime, comme il lui incombe de le faire. Elle dit ça dans sa lettre. en convoquant les témoins de leur cause, dont les noms sont mentionnés dans la lettre. Nous ne savons pas pourquoi ces sœurs se sont adressées à un qadi, tandis que la veuve non-musulmane et l'orphelin musulman se sont tournés vers des responsables administratifs militaires pour résoudre leurs différends. S'agissait-il de cas d'appel, de choix conditionnés par l'accès aux autorités ou encore par la disponibilité de preuves et de témoins? Ou est-ce que c'est parce que les cas d'orphelins et la veuve concernent un conflit entre musulmans et non-musulmans? Dans un autre papyrus conservé à Vienne, une femme se présente comme une veuve pauvre, Armala Meskina, et elle sollicite l'aide de l'amir, car son fils, sa seule source de revenus, a été emprisonné. Elle écrit d'avoir trouvé personne pour lui donner même un morceau de pain. Il n'est pas clair si elle demande à l'amir de faire libérer son fils, d'intervenir afin de faciliter sa libération ou de lui fournir une aide matérielle lui permettant de subsister jusqu'à son retour. D'autres demandes d'assistance matérielle étaient également adressées à des représentants de pouvoir. On peut citer par exemple une lettre du 9e siècle dans laquelle un homme demande à un amir, donc gouverneur ou peut-être quelqu'un un peu plus bas, de lui fournir la somme restante nécessaire pour racheter sa propre liberté ainsi que celle de sa fille réduite en esclavage. Nous verrons plus loin des requêtes analogues formulées dans des lettres de pétition qui ne sont pas adressées à des autorités gouvernementales. Les deux lettres de papyrus suivantes ont été publiées par Yusuf Rareb. Faute d'avoir eu un accès directement aux images des documents conservés aujourd'hui au Louvre, j'ai dû faire preuve d'un peu de créativité, mais c'est bien de montrer le APD, the Arabic Papyrology Database, sans lequel nous ne pouvons faire rien. Dans le dossier de lettres et d'autres documents relatifs à plusieurs familles de marchands de tissus du 9e siècle, notamment les Banu Abd al-Mumin, Rareb a également édité une lettre de pétition adressée par le chef de famille, Abu Huraira, à un administrateur local. Abu Huraira écrit « Mon frère, c'est-à-dire un associé commercial, m'a informé que des individus de basse condition de son quartier, Awa Menjiratihi, l'ont attaqué, mettant le feu à ses marchandises textiles. Abu Huraira explique à l'administrateur qu'il convient d'envoyer quelqu'un pour empêcher les responsables de harceler à nouveau son associé. Afin de faciliter l'intervention, il fournit leur nom dans sa lettre. Il précise en outre que si le délègue échoue à faire cesser ses agissements, les individus concernés devront être impressionnés. Bien que Abu Huraira, donc un grand marchand dans le village, on peut imaginer, demande au destinataire de prendre en charge l'affaire et d'agir de manière appropriée en cas de nouvelle violence, son ton est particulièrement impératif, presque injonctif. Il est manifeste qu'il se sent autorisé à adopter une telle insistance en raison de l'injustice subie, mais aussi des relations qui le lient à la victime d'une part et à l'administrateur d'autre part. Ce sont précisément ces relations entre Abu Huraira et le destinataire, ainsi qu'entre Abu Huraira et la victime, qui expliquent qu'il s'adresse lui-même à l'administrateur plutôt que de laisser la victime agir directement. Il est quand même important de noter que ni Abu Huraira ni la victime n'ont décidé de punir eux-mêmes les coupables. Donc il va quand même parmi le gouverneur. Les deux lettres suivantes sont également rédigées par un expéditeur agissant au nom d'une tierce personne. La première, également publiée par Yusuf Rareb, précise que le porteur de la lettre doit être bien traité, car j'entretiens avec lui une relation particulière. L'expéditeur invoque ainsi le lien personnel qui l'unit à la personne pour laquelle il sollicite protection et bienveillance afin d'activer sa propre relation avec le destinataire et d'obtenir de lui une intervention favorable. Mais il apparaît également l'acte même d'écrire la lettre est connu comme un investissement en vue de bénéfices futurs. Je cite, je souhaite que tu l'informes, c'est-à-dire le porteur de la lettre pour laquelle je sollicite de toi un traitement particulier, de ce que je t'ai dit concernant sa relation avec moi, que tu prennes soin de lui, que tu le protèges et que tu lui témoignes de la bienveillance afin qu'il perçoive l'effet profitable de la lettre que je t'ai écrite à son sujet. Et on a en fait cette même anecdote de quelqu'un écrit une lettre de pétition pour un autre et dit dans la lettre pour la personne qui va aider qu'il doit mentionner à la personne qui prend la lettre ce qu'était le avantage d'avoir un patron comme ça. En accédant à cette demande, le destinataire consolide les liens d'interdépendance qui l'unissent à la fois au porteur de la lettre, à l'expéditeur et qui relie également l'expéditeur au porteur. L'ensemble de ces relations peut ensuite être activé en vue de l'obtention de faveurs ultérieures. En rendant explicites ces interconnexions présentes et à venir, l'expéditeur met en avant son capital social comme argument supplémentaire à l'appui de sa requête. Cette lettre de recommandation n'est conservée que de manière fragmentaire. Elle a été réutilisée au verso pour rédiger une lettre de pétition, comme nous le verrons dans un instant. Dans ce cas également, le porteur de la lettre, Sahab Kitabi, est la personne au nom de laquelle l'expéditeur rédige son message. Selon ce dernier, il compte parmi les meilleurs scribes tant pour l'écriture que pour la tenue de compte. Il demande au destinataire de lui fournir de quoi subvenir à ses besoins immédiats, mais aussi de l'aider davantage, probablement en l'employant lui-même ou en l'assistance, afin qu'il obtienne un poste rémunéré correspondant à ses compétences scriptuaires. Comme vous pouvez le voir sur l'image, cette lettre se distingue non seulement par la qualité de son argumentation, mais également par son aspect visuel. Elle présente plusieurs exemples d'allongement de lettres, de larges marges et, dans l'ensemble, une écriture arabe particulièrement soignée. Et c'est sûrement visible quand on le compare avec celui-là. L'auteur de cette lettre beaucoup plus courte, qui est conservée dans la partie du papyrus découpé à partir d'une lettre plus longue figurant au recto, qu'on a justement vu, demande au destinataire de financer son retour à Fustat depuis une ville non précisée. Je cite, « Tu connais ma situation dans cette ville et que je suis dans le besoin à cause d'elle. Et j'en remercie grandement Dieu. Je souhaite aujourd'hui partir pour Fustat. Je souhaite aujourd'hui partir pour Fustat. Si tu juges qu'il est de ton devoir que Dieu prolonge ta vie, de me donner de quoi me permettre d'attendre Fustat, il y aura pour toi en cela une grande récompense de Dieu, bien sûr, ainsi que ma louange complète et ma reconnaissance, si Dieu le veut. Il n'y a de puissance qu'en Dieu. » L'expéditeur rappelle ainsi au destinataire qu'en lui apportant une aide matérielle pour entreprendre ce voyage, il accomplira non seulement une œuvre pie, mais qu'il assurera également la gratitude de l'auteur, allusion évidente à des services futurs sur lesquels il pourra compter. Donc cette lettre est adressée à un destinataire non identifié par une épouse dont le mari a été emmené de force et se trouve désormais emprisonné. « Je ne sais pas s'il est vivant ou mort », écrit-elle avant de demander au destinataire. Je cite, « Si tu juges approprié de m'aider, moi et mes enfants, car nous nous en remettons à Dieu, puis à toi, ajoutant que celui-ci constitue leur refuge. » Dans cette lettre, l'expéditeur demande au destinataire de lui envoyer le montant du loyer d'une maison dans la mesure de ce qui est disponible en expliquant « J'en ai besoin pour payer les frais quand je suis en train de suivre un traitement médical pour une tumeur. Envoyez-le-nous donc, que Dieu te protège. Ou du moins une partie sans délai, quand je souhaite m'en quitter pour l'intervention. » Bien qu'elle semble relever d'une relation contractuelle entre un propriétaire et un agent ou un locataire, cette lettre est formulée comme une lettre de requête. Elle recourt à une formule de demande polie et se concentre exclusivement sur l'objet de la requête, mentionné à deux reprises, en développant une argumentation persuasive fondée sur les attentes liées à la relation entre les deux parties et en présentant la demande comme une faveur qui doit être accordée. Cette lettre, seulement deux encore, cette lettre est, une fois encore, rédigée au nom du porteur. Celui-ci est décrit par l'expéditeur comme un homme faible, wahua daif. Son épouse s'est enfuie en emportant une partie de ses biens. L'expéditeur conclut, à l'aide de la formule générale de la pétition, « Donne donc ton avis, que Dieu te fasse vivre longtemps au sujet de son affaire. Puisses-tu réussir, Farayaka ?» Laissons entendre que le mari laissé devant devait ensuite préciser lui-même les mesures qu'il souhaitait voir prises. Et une dernière lettre provient de la collection de papyrus de Manchester. Elle a été publiée par Margoliou dans sa grande édition de papyrus de cette bibliothèque. Il s'agit d'une lettre de requête en arabe, une lettre de pétition en arabe, d'une taille exceptionnelle, mesurant 64 par 13 cm, qui conserve un texte complet depuis l'invocation initiale au nom de Dieu le Clément, le miséricordieux, jusqu'aux salutations et bénédictions finales adressées au destinataire, soit un total de 24 lignes. Après les formules d'ouverture et les bénédictions à l'adresse du destinataire, l'expéditeur commence par signaler qu'il n'a reçu depuis longtemps aucune lettre l'informant de l'état de santé de celui et de sa famille, ajoutant qu'il espère que ce silence signifie qu'ils sont tous en bonne santé. Il en vient ensuite à l'objet de sa lettre, expliquant au destinataire qu'il appelle mon frère, encore, Achi, donc pas un lien de famille, qu'il a été maltraité par ses proches, lesquels, je cite, m'ont expulsé de mon bien et de ma part comme on tire un cheveu de la patte, me laissant dépendre de l'aumône comme un mendiant. Les conséquences de ce renversement de situation provoqué par ses propres parents sont catastrophiques. L'expéditeur se retrouve sans nourriture ni vêtements. Il écrit « Je suis dans un état de faim que Dieu seul connaît et je n'ai pas de vêtements qui me permettent de paraître aux yeux des gens. » Résumant ainsi sa misère, « Je crains le froid et la nudité. Tout espoir m'a abandonné et je meurs de faim. » L'oncle de l'expéditeur joue un rôle crucial dans l'affaire, dans la mesure où il n'a pas répondu à une précédente demande visant à lui faire parvenir du blé. L'auteur sollicite désormais le destinataire afin qu'il s'adresse à sa sœur pour qu'elle intervienne auprès de cet oncle afin que celui-ci lui fournisse le blé nécessaire. La lettre se conclut par une recommandation adressée au destinataire. Il lui demande de transmettre sa lettre, peut-être celle rédigée en son nom, au vizir Abu al-Fadl ibn Sahl, qui, assure-t-il, la fera suivre accompagnée de son propre lettre. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ce qui est important, c'est que cette personne est en contact dans un milieu avec un vizir. Donc, il n'est pas dans la couche la plus bas. Ce qui unit ces lettres, adressées tantôt à des administrateurs, parfois en raison de leur fonction, parfois non, tantôt à des membres de la famille, à des partenaires commerciaux, à des amis ou à des connaissances, c'est qu'elles sont intégrées dans, tant dans leurs fonctions que dans leur logique normative aux pétitions formelles adressées aux instances gouvernementales, tout en demeurant distinctes sur le plan procédural. Et peut-être, donc ce que je veux dire, c'est que la logique normative est la même pour toutes ces lettres de pétition, mais qu'il y a bien sûr des différences dans la procédure et peut-être aussi dans le vocabulaire technologique qui est adressé, qui est utilisé dans les lettres pétitions qui circulent dans certains contextes institutionnels. Les lettres de pétition présentent en effet un recoupement partiel avec les pétitions formelles du point de vue de leur forme. Je prends ça. Tous les deux. Donc, ils sont tous. Pardon. Ils sont tous généralement centrés sur une seule question nécessitant une résolution, même si dans les lettres, celle-ci peut parfois être insérée dans une communication plus longue. Et il mobilise une argumentation persuasive, une économie d'échange de faveurs, combinant l'exposé des faits avec des considérations relatives à la situation du demandeur et aux obligations du destinataire. Cette proximité formelle suggère d'ailleurs que, dans la pratique, la procédure officielle de pétition ne différait peut-être pas autant de lettres de pétition que ne laisse supposer leur inscription institutionnelle distincte. Donc, comme je veux dire, c'est, je l'ai dit déjà, c'est peut-être il y a un développement ou un changement de procédure ou de vocabulaire, mais fondamentalement, c'est le même système. Dans le même temps, les lettres de pétition se distinguent des pétitions formelles par leurs modalités d'initiation, de transmission, de traitement. Au lieu de circuler à travers des circuits bureaucratiques officiels, elles sont souvent relayées par des intermédiaires, ce qui met en évidence le rôle central des relations personnelles et des réseaux sociaux dans l'accès à la réparation. Malgré cette différence procédurale, elles s'inscrivent dans le même cadre moral que celui qui sous-tend la pétition formelle. Et formelle, je veux dire seulement qui est donnée à des autorités. Cette logique normative partagée définit les droits et les responsabilités au sein des relations sociales, en instituant une attente selon laquelle les individus doivent se rendre mutuellement assistance et service. Dans ce système fondé sur la réciprocité et l'endettement mutuel, les demandes d'aide reposent sur des droits établis ainsi que sur l'anticipation de contreparties futures, rapprochant ainsi étroitement les lettres de pétition des fondements éthiques des mécanismes de justice plus formalisés. En conclusion, la conférence d'aujourd'hui a présenté un corpus de lettres de pétition en arabe sur papyrus qui, bien que distinct dans certains éléments de pétition formelle, peut-être dans leur procédure et vocabulaire, et on ne sait pas exactement quand ils sont existent, soumises par les intermédiaires des institutions administratives et des tribunaux de droit islamique, occupent néanmoins une place sur le même spectre de pratiques par lesquelles la justice était recherchée et obtenue. Ces lettres offraient à leurs auteurs ou aux personnes pour le compte desquelles elles étaient rédigées un moyen de traiter des problèmes résultant d'actions humaines aussi bien que d'infortunes. De manière significative, plutôt que de prendre les choses en main par eux-mêmes, les pétitionnaires se tournent systématiquement vers d'autres membres de leur environnement social, associés, membres de la famille, amis, partenaires, commerciaux, aux connaissances ou membres d'autorités. afin d'intervenir en leur faveur et de contribuer à la restitution de ce qu'ils considèrent comme leur dû, leur droit, leur haq. Ce recours à la médiation interpersonnelle renvoie à un ordre sociopolitique plus large, dans lequel la cohésion n'était pas assurée principalement par un mécanisme d'imposition centralisé, mais par des réseaux d'interdépendance sociale dense. L'accès à l'assistance, à la protection et la réparation étaient inscrits dans des relations conférant à la fois des droits et des obligations. Les revendications de justice pouvaient être formulées dans différentes arènes, devant les tribunaux, par le biais de procédures formelles de preuve, et dans les pétitions, par des appels à l'autorité du souverain dans le cadre de la CIS. Donc le domaine de droit que tombe sur le souverain. Toutefois, les lettres de pétition montrent que ces revendications reposaient tout autant sur des attentes morales qui dépassaient largement les cadres institutionnels. L'obligation du souverain d'agir avec justice et générosité trouvait ainsi son équivalent à tous les niveaux de la société, où les individus disposaient de ressources ou d'une influence plus importante étaient tenus d'apporter leur aide à ceux qui en avaient besoin, et où ces dernières pouvaient réclamer cette assistance comme leur droit véritable, leur haq. Ce qui se dessine ainsi n'est pas une opposition entre droit formel et pratique informelle, ni entre État et société, mais un continuum structuré par une logique morale partagée. Dans ce cadre, les actes d'assistance, de générosité et d'intervention ne relèvent pas de l'arbitraire, mais étaient liés à des attentes de réciprocité. Les relations sociales étaient façonnées par un principe d'endettement mutuel. Les faveurs accordées créaient des obligations, et l'aide apportée engendrait des droits à des soutiens futurs. Les lettres de pétition rendent visible cette dynamique à l'œuvre. Elles montrent que les demandes d'aide n'étaient pas formulées comme de simples appels à la bienveillance, mais comme des revendications légitimes fondées sur des relations existantes ou anticipées. Et ça gouverne donc toutes les lettres de pétition. En replaçant les lettres de pétition dans ce système plus large, nous pouvons mieux comprendre le fonctionnement de la justice dans l'Égypte islamique des premiers siècles et médiéval. Non seulement comme un ensemble de procédures institutionnelles, mais aussi comme une pratique sociale vécue, nourrie par des échanges continus de services et d'obligations. C'est précisément cette interaction entre droits moraux, réseaux sociaux et cadres institutionnels qui, me semble-t-il, a contribué à la résilience et à la cohésion de l'Empire islamique des premiers siècles. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-France.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.